Dios bendice. Dans lire sur des écritures et puis un peu dans leur continuité ce que nous avons vu mercredi. Et puis nous prions tous ensemble. Ça va? Le moment est compliqué. Le chrétien doit apprendre à passer par des moments compliqués. Dieu vous bénisse. Les programmes n'étaient pas encore établis ce matin, mais je ne sais pas, peut-être que maintenant que oui, je n'en sais, je ne sais pas. Mais tout le programme sera répercuté dans le groupe WhatsApp. Les funérailles de Isha auront lieu la semaine prochaine, Dieu voulant. Sinon, puisqu'on attend les personnes qui doivent venir des États-Unis, c'est possible que ça passe à la semaine d'après, mais en principe, c'est au plus tard vendredi. Vendredi de la semaine prochaine. Isha a rendu l'âme hier vers 21h. Et bon. Cela ne nous empêche pas de continuer à prier pour les cas qui ont besoin de prier. Prière. Ça va? Si on prie pour une personne aujourd'hui et qu'elle s'en va, que 10 000 se présentent demain, prions pour les 10 000. Parce que nous avons cette foi que Dieu, dans nos prières, et Dieu a son plan. Et dans ce qu'il fait, il ne commet pas de faute. Je voulais qu'on fasse une petite réunion de prière, mais bon, vu le temps passé, je vais juste exhorter. Puis on va tous prier ensemble. Je vais citer quand même quelques cas qui ont besoin de prière. Nous prierons pour cela. Et après, nous pourrons nous en séparer. Pour chez Frère Tombeau, ceux qui le veulent, passent. Que tout le monde peut passer, tous ceux qui veulent passer peuvent passer. L'adresse, je sais que c'est la rue ou l'avenue des Colombophiles. Je ne sais pas très bien, mais si vous téléphonez au Frère Tombeau, on vous le dira. C'est près du canal. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Prions d'abord. Dieu notre Père, nous venons à toi ce soir avec révérence. En ouvrant ce livre sacré qui contient ta parole sous la forme écrite. Te demandons de bien vouloir nous inspirer. Tu connais nos besoins en ce moment. Nous avons des besoins immenses en consolation. Nous avons des besoins différents, beaucoup de choses. Puisses-tu te révéler à nous encore selon tes attributs. Et que notre louange puisse monter vers toi, faite de ce que tes attributs, tu les as manifestés en notre faveur. Te demandons de nous assister, de bénir tes enfants qui sont en voyage. Pour eux, cela doit être difficile, si loin. Tu les bénisses, que tu nous assistes également et te remercions pour également Et frère Philippe, nous savons qu'il y a eu un mariage de côté pour satisfaire aux besoins, aux exigences de César. Et nous avons rendu à César ce qui est à César. Te remercions de ce que tout se soit bien passé. Bénis ta parole ce soir, tes enfants, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés à circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mercredi, nous avons parlé du fait, la conséquence d'être sans Christ, c'est être sans espérance. Où on vit carrément dans la fatalité. Un peu comme ce bateau au milieu de la tempête où ils ont essayé de tout faire, tout combattre. Finalement, les forces s'en sont allées. Le désir de combattre terminé, puisqu'ils ont perdu toute espérance, ils ont laissé le bateau aller à la dérive. Le chrétien ne doit pas laisser sa vie aller à la dérive. Dépendre des vents. Le chrétien doit dépendre de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle va même dans le sens des vents contraires. La parole de Dieu va dans le sens des turbulences, même dans le sens contraire des turbulences. La parole de Dieu n'évite pas ça. Elle affronte ça. Et la parole de Dieu rend vainqueur les fils et les filles de Dieu. Ce soir, nous intitulerons juste le sujet. Mercredi passé, c'était sans Christ, sans espérance. Aujourd'hui, c'est sans Christ, sans Dieu. Et l'apôtre nous dit, nous étions sans espérance et sans Dieu. Comme nous le disions déjà mercredi, c'est un très mauvais état que de vivre sans espérance. C'est se laisser aller à la dérive. C'est aussi un très mauvais état que de vivre sans Dieu. Nous avions dit que dans Actes 27, tel que nous avions lu, qu'il y avait deux groupes de personnes dans la barque. Acte 27, n'est-ce pas? Lorsque le vent impétueux a soufflé, au verset 24, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Nous avons remarqué, si on lit un peu plus haut déjà, au verset 13, on peut le voir, au verset 13, il n'y avait au départ, à un moment donné, qu'un léger vent du sud qui ne les perturbait pas. Le vent du sud, la secousse était tellement légère qu'ils se croyaient maîtres de leur dessein. C'est un peu le cas de beaucoup de gens. Lorsque les secousses sont légères, ils se croient être très forts. Mais lorsque Héraculon vient, un vent de ce calibre-là vient, c'est là qu'on réalise combien nous sommes faibles et qu'on a besoin de Dieu. N'est-ce pas? Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Le vent du sud, ils ont pu lutter contre ce vent-là. Héraculon, ils n'ont pas pu. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ils n'arrivaient plus à combattre. Frère, mais bats-toi. Je n'en peux plus, frère. Ouais. Et ils vont arriver à un point où le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. ce qui est une catastrophe pour des navigateurs, pour des marins, à l'époque où il n'y avait pas de boussole, parce qu'ils se dirigeaient selon les étoiles, selon le soleil, par rapport à la position du soleil. C'est là qu'ils pouvaient se diriger, comme ça ils pouvaient savoir où ils allaient. Mais ici, plus de boussole, donc plus de soleil, plus d'étoiles, ils ne savent pas où ils vont. Où est-ce que cette épreuve va les conduire? Ils ne le savent pas. Et c'est tellement fort comme épreuve que c'était tellement fort que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ils étaient en arrivée à ne plus avoir d'espérance. Et il y avait ce groupe qui était sans Christ, qui a fini par perdre l'espérance. Et donc, il y avait deux groupes, il y avait ce groupe-là sans Christ, et le deuxième groupe qui n'était composé que d'une personne qui était en Christ. Amen. Qui était entre les mains de Christ. Et c'était Paul. Paul dit, hein, il dit que, parle de lui-même, il dit, je connais un homme en Christ, n'est-ce pas? Il s'agit bien de lui-même. Et nous savons dans 1 Thessaloniciens 4 comment il dit ça. Il dit, nous qui sommes en Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés en Christ, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 12, parle de son expérience. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. C'est très important, ces révélations. Parce que quand vous traversez une période de turbulence avec une tempête du genre d'Héraculon, il faut que vous soyez tenu par les révélations du Dieu vivant. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il bâtirait son Église sur base de la révélation de qui il est. Et il dit que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre cette Église. Elle peut être secouée, peut être ballottée, mais elle est ancrée en Christ. Il dit, je connais un homme en Christ, il s'agit de lui-même, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et Paul savait ce que c'était que le paradis. Le paradis, c'est quoi? Luc 23. On retient encore 2 Corinthiens 12, verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et Paul dit qu'il a été enlevé dans le paradis. C'est pourquoi Paul pouvait s'écrier à un moment donné, devant la mort, face à la mort, il pouvait s'écrier, ô mort, où est ton aiguillon? Paul pouvait se permettre d'exhorter les frères de Thessalonique en disant, ça arrive, C'est normal que vous vous affligiez, mais ne vous affligez pas comme ceux qui sont sans espérance. Pour Paul, l'espérance du paradis était une réalité. Cela doit être une réalité pour tout croyant en Christ. Il ne faut pas que cela soit juste une idée qu'on nous a donnée, une idée qu'on nous a plantée dans la tête ou dans l'esprit, disant qu'il y a un paradis, nous irons auprès du Père. Non, il faut que ça soit une révélation du Dieu vivant. Et c'est important. Ça soulage lorsque des souffrances du genre par lesquelles nous passons, ça soulage lorsque nous devons subir cela. Ça va? Qu'il y a un paradis. Et dans ce paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et il faut donc cette révélation-là. Et ce monsieur, cet homme qui était en Christ, Paul, il servait à un Dieu qui avait des anges, qui a des anges. Et il servait ce Dieu-là. Titre aujourd'hui, c'est Sans Christ, sans Dieu. Il avait un Dieu, Paul. Un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Ça va? Si on revient dans Acte 27, pas tout lire. Acte 27, verset 22. On peut prendre verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il avait un Dieu qui le prévenait des dangers qui le précédaient. Il avait un Dieu qui lui disait ce qui l'attendait. Et cela se confirmait. Ce qui fait qu'il avait cette assise ferme en Dieu. Cette foi ferme en Dieu. Aucune souffrance. Il était dans une situation difficile. Il était prisonnier. Paul était prisonnier là-bas en fond de cale. On l'amenait comme prisonnier alors qu'il n'avait rien fait de mal. Le seul mal qu'on lui reprochait, c'est de prêcher Jésus-Christ, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile. Et Paul est resté ferme malgré toutes les souffrances qu'il subissait. Souvent, ceux qui n'ont pas ces révélations-là, quand les malheurs s'abattent sur eux, ils finissent par se dire: Mais où est Dieu? Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'écoute pas. Il n'écoute pas mes prières. Mais pour Paul, Dieu était certain, malgré qu'il dit: Pourtant, j'ai demandé à ce que Dieu m'enlève cette écharde que j'avais dans la chair. Dieu lui a dit: Ma grâce te suffit. Et ça ne l'a pas découragé du tout. Nous aussi, nous avons demandé. Nous avons jeûné, nous avons fait des réunions de prière, nous avons fait des jeûnes collectifs, des jeûnes privés, individuels, en faveur de Isha. Dieu l'a reprise. Cela ne doit pas nous décourager. Si nous nous décourageons, c'est que nous n'avons pas cette assise ferme en Dieu. Et c'est normal que quelqu'un en vienne à se décourager à ce moment-là. Mais lorsque nous avons cette assise ferme, Paul qui savait que le paradis n'était pas juste, comment dirais-je, un mot que l'on a sorti comme ça, le paradis est un lieu qui existe réellement. Amen. Et il dit, vous auriez dû m'écouter. Verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, vous voyez, il appartient à un Dieu. À qui j'appartiens et que je sers, il est à son service. M'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Paul est un croyant qui savait que La parole de Dieu ne pouvait jamais rentrer à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été annoncée. Si Dieu lui a dit qu'il devait comparaître devant César, c'était une réalité, il allait comparaître devant César. Dis amen à ça. Et ce que Dieu vous a révélé, soyez sûr que c'est ce qui va arriver. Et si cette révélation n'est pas encore là, oh, demandez à Dieu de vous l'accorder. Demandez à Dieu de vous révéler. Pendant que ce genre de choses arrivent, ça évite des pourquoi. Moi, on me pose souvent ces questions. Lorsque le malheur frappe, on dit, frère François, pourquoi est-ce que ça arrive? Souvent, je dis, sœur, frère, quand tu me poses cette question, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Si Dieu m'avait dit pourquoi, par exemple, dans le cas de notre fille ici, si Dieu m'avait dit pourquoi il a reprise, je vous le dirais. Mais Dieu ne m'a rien dit. Tout ce qu'il y a, nous continuons à lui faire confiance. Dieu ne m'a rien dit à ce sujet. J'étais surpris. On était en pleurs lorsque j'ai entendu hier, lorsqu'on m'a téléphoné pour me le dire. Ça a été une nouvelle difficile à encaisser. Et Paul avait pleinement confiance en son Dieu. Il dit, verset 25, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Et c'est une confiance qu'il a pas pendant le léger vent du sud. C'est une confiance qu'il a pendant que Euraquilon souffle, qui est un vent impétueux. Ça va? Alors qu'ils sont à la dérive, alors qu'ils sont dans le noir, ils ne savent pas se diriger, mais Paul continue à garder cette confiance en Dieu, alors que tout semblait contraire. Amen. Tout lui était contraire. C'est vraiment un mauvais état d'être sans Dieu. Si, ici à la rue de Firlan, avec tout ce qui nous est arrivé, on regarde depuis le mois de juin 2023, même si on va au-delà, années 2000, 2000, 2001 et ainsi de suite. Si à la rue de Firlan, nous étions sans Dieu, nous serions malheureux ce soir. Malheureux ce soir. Mais dans la condition dans laquelle nous nous trouvons ce soir, nous sommes reconnaissants à Dieu. Que nous restions debout. Amen. Je suis reconnaissant à Dieu de voir mon frère, je suis passé là-bas chez eux tout à l'heure, de le voir debout. Voir ma soeur debout. Les enfants debout. En pleurs, mais debout. Dieu soit loué. Pourquoi sommes-nous debout? Nous avons confiance que cette parole, c'est la vérité. Et nous avons placé notre confiance en cette parole qui est la parole de Dieu. En un Dieu qui n'est pas impuissant devant la mort. 2 Corinthiens, chapitre 1er. De Corinthiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, ce dont nous avons besoin ce soir, qui nous console, il t'amène à ça, dans toutes nos afflictions. Il n'y a aucune affliction que Dieu ne laisse en suspens. Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation, pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Ça arrive à tout le monde. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, pour l'espérance de cette vie terrestre. Mais l'espérance de la vie éternelle, nous l'avons toujours. C'est ancré. C'est au-delà du voile, personne ne peut nous l'enlever. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Notre Dieu est un Dieu qui ressuscite les morts. Ce soir, c'est de lui que nous avons besoin. C'est de cette révélation-là que nous avons besoin. Notre Dieu est un médecin. Il guérit. Psaume 103. Verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Même ce qui a emporté Isha, Dieu est capable de guérir cela. Nous avons cette conviction. Dans Exode 15, il dit aux enfants d'Israël, au verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dieu est un grand médecin. Dieu est consolateur dans nos afflictions. Ça va? Et comme Dieu est un grand médecin, nous avons une sœur ici. Nous en avons même deux. Sœur Isabelle, c'est ce que nous appelons maman, qui a besoin d'être visitée. Nous avons besoin que Dieu visite notre sœur Astrid. Où il est question, on lui pose la question s'il faut faire une transplantation de rein ou quoi. Nous savons que Dieu, dans cette génération, a donné à un homme de 90 ans un nouveau cœur. Il n'y a pas eu besoin de transplantation. Il y en a beaucoup qui souffrent au milieu de nous de ces maladies d'Égypte. Quelles sont ces maladies d'Égypte? Diabète, hypertension, cardiovasculaire, n'est-ce pas? Donc tout cela, toutes ces choses respiratoires, ce qu'on appelle aujourd'hui des allergies sévères, toutes ces choses, Dieu guérit cela. Et nous avons besoin de prier pour tous ceux qui souffrent de ces choses-là. C'est une prière que je vous demande, chacun d'entre vous, à la fin de cette exhortation. Quelques minutes. Nous allons prier pour cela. Dieu qui ressuscite les morts, que sa parole s'accomplisse lorsque le temps viendra au son de la trompette. que nous puissions tous nous retrouver ensemble, que nous puissions tous aller à sa rencontre. Et s'il y en a qui sont perdus, le Dieu auquel nous avons cru est un sauveur. Il est le seul sauveur. Ésaïe 43. Verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et quand Christ est né, l'ange a annoncé, n'est-ce pas? Il a annoncé aux bergers, réjouissez-vous. Parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui dans la ville de David, n'est-ce pas? Que s'est-il passé dans la ville de David? Il vous est né un sauveur. Et ce sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'appellerez, un enfant naîtra, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu concevras et l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Il t'amène à ça. Donc, nous avons un sauveur. C'est vraiment triste d'être sans Christ, sans Dieu. Quand on est sans Christ, on est sans Dieu. Mais celui qui vous mène, personne n'arrive à Dieu sans passer par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un est-il lié ce soir? Nous avons un Dieu qui délivre. Psaume 68. Lié par le péché, ce péché, comme dit l'apôtre, qui nous enveloppe si facilement. N'est-ce pas? Psaume 68. Verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il t'amène à ça. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Amen. En sommes sûrs? Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il y a plein de choses sur lesquelles nous pouvons compter. Nous pouvons compter sur lui. Tout ce dont nous avons le besoin se trouve en sa main. Il n'y a rien qui puisse se dépasser. Nous ne voulons pas vivre sans Dieu. C'est pourquoi nous voulons faire comme Paul l'a dit, nous voulons saisir Christ. Il dit, je cours vers le but. Il dit, je veux le saisir. Pourquoi? Parce que je veux être trouvé en lui. Parce que quand vous êtes trouvé en lui, en ce qui concerne toutes les promesses, l'amen trouvant lui, en étant Christ. Nous avons un Dieu qui agisse. Pas juste un Dieu que l'on place, que l'on croit, que l'on en fait un Dieu, que l'on met dans la poche et que, bon, on se donne une certaine sérénité. Non, mais un Dieu qui agit, un Dieu qui parle, un Dieu qui entend et qui connaît nos besoins. Ça va? C'est de ce Dieu-là que nous avons besoin. Nous avons besoin de lui comme le centenier avait besoin de lui, passant par Christ, n'est-ce pas, pour son serviteur. Nous avons besoin de lui pour nos bien-aimés qui ont encore besoin de prière, pour de guérison. Nous avons besoin de lui pour nos bien-aimés qui ont besoin de consolation. Ce soir, nous avons besoin de lui. C'est pourquoi je vais vous demander que nous puissions prier pour eux. Le Seigneur. Dieu vous bénisse.